Chers amis mélomanes, amateurs d'opéra, bonsoir. Nous poursuivons ce soir le cycle opéra français commencé le mois dernier avec Massenet. Ce soir, nous évoquerons Georges Bizet, le génial compositeur novateur, tout d'abord incompris, avant d'être porté au nu, si bien que ses opéras comptent parmi les œuvres les plus jouées dans le monde. C'est d'ailleurs souvent le cas en matière d'opéra. Le public est souvent surpris, il ne retrouve pas ses habitudes et boude son plaisir devant la nouveauté. Mais, peu à peu, le temps fait son œuvre. Le chef-d'œuvre finit toujours par s'imposer. Dans Cizotier, notre réalisatrice est à son poste et nous pouvons donc commencer à découvrir ensemble cet énigmatique Georges Bizet. En effet, Georges Bizet, enfant prodige du piano, a été Grand Prix de Rome à 19 ans. Vous imaginez ? Un barbu de 19 ans, on les appelait comme ça, les barbus, parce qu'en général, c'était vraiment les compositeurs plutôt âgés, voire très âgés, qui concouraient pour le Grand Prix de Rome. Et bien là, c'est un gamin de 19 ans. C'est dire, bien entendu, ses aptitudes. Il a développé une personnalité particulière, en grande partie grâce à sa mère, qui était déjà une fameuse pianiste concertiste. Bizet est né en 1838 et mort en 1875, à l'âge de 36 ans, comme Mozart. Ses opéras célèbres sont « Les pêcheurs de perles »,« La jolie fille de Perth » et surtout son chef-d'œuvre « Carmen ». Ce soir, nous nous concentrons sur les pêcheurs de perles et Carmen. Alors, tiré des pêcheurs de perles, une œuvre de jeunesse, écoutons, pour commencer, la magnifique aria pour ténor, le célèbre air de Nadir, « Je crois entendre encore ». Écoutons Roberto Alagna nous envoûter sous les palmiers de l'île de Ceylan.
Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme
thank you.
crois encore entendre cette musique merveilleuse, musique incroyablement raffinée. La mélodie, d'une pureté incroyable, fait penser à une chanson issue des temps jadis, mais avec un raffinement infini. Et surtout, une tension vocale permanente qui en font un joyau de pure qualité musicale. Après cet air, intervient Leïla, la grande prêtresse, celle qui a été chargée par les pêcheurs qui font un métier si dangereux pour aller chercher la perle en bas, au fond de cet océan où, bien entendu, il y a des dangers. Leïla invoque Brahma et elle prie sans cesse pour protéger les pêcheurs qui font un métier si dangereux. Et parmi ces pêcheurs, il y a son bien-aimé Nadir, que l'on vient d'entendre chanter sa romance. Et évidemment, si elle prie, c'est aussi en grande partie pour lui. Écoutons donc cette invocation par Annick Massis, qui est une soprano coloratour, c'est-à-dire avec un aigu extrêmement facile.
Oh, Leïla, Leïla, ne redoute plus rien. Me voici, je suis là.
Ce qui est amusant, je trouve, et qui se produit assez rarement, c'est que cette Annick Massis est la fille du grand baryton français René Massis, que j'ai eu l'occasion de beaucoup, beaucoup diriger, qui était de ma génération et avec qui nous avons fait beaucoup, beaucoup d'opéras. Voilà, donc je le salue, je sais qu'il est sûrement à l'écoute pour entendre sa fille, qui elle aussi fait une belle carrière et qui a chanté à Orange il n'y a pas tellement longtemps. Alors, après cet air, vous voyez qu'il est déjà aussi un petit chef-d'œuvre à la mode de Bizet, eh bien, il y a, je dirais, le plat de résistance, c'est-à-dire le duo. L'incontournable duo entre Nadir et Zourga, entre le ténor et le baryton. C'est un superbe duo qui est presque toujours bissé lorsque l'on fait la représentation et que tous les amateurs fredonnent souvent dans la salle en même temps que les artistes. Alors écoutons ce beau duo par Roberto Alagna et Ludovic Tézier.
C'est toi, toi qu'enfin je revois, après de si longs jours, après de si longs mois, où nous avons vécu séparés l'un de l'autre, brava nous réunis, quelle joie est la nôtre. Parle, et tu restes fidèle à ton serment, et c'est un ami que je revois. Ou bien le traître de mon amour profond, j'ai su me rendre maître. Oublions le passé, fêtons ce doux moment. Soyons frères, restons amis toute la vie. Mon cœur a banni sa folie. Oui, le calme est venu pour toi, mais l'oubli ne viendra jamais. Que dis-tu, Zourga? Tu te rappelleras notre dernier voyage et notre halte-porte de Candie. C'est
La voie était toute tracée pour aboutir à Carmen, son chef-d'œuvre, d'après la nouvelle de Prosper Mérimée. Tout d'abord, chef-d'œuvre incompris, qui fut même un échec à sa création, mais qui avait pour défenseur deux grands génies en la personne de Nietzsche, le philosophe, qui, lassé des sagas germaniques, découvrait cette musique méditerranéenne pleine de couleurs et de rythmes. Et surtout, surtout, en la personne de Tchaïkovski lui-même, le grand compositeur russe, qui avait très justement prédit que Carmen serait bientôt l'œuvre la plus jouée dans le monde. Malheureusement, Bizet ne verra jamais son opéra triompher. Il faut dire que l'œuvre semblait maudite. Déjà, le personnage impudique de cette Carmen vulgaire déplaisait à un public moralisateur. Verdi, déjà avec la Traviata, avait essuyé cette déconvenue de mettre en scène une courtisane, presque une prostituée. Ensuite, dès le départ, l'œuvre contenait des passages parlés, souvent mal déclamés par des chanteurs italiens à l'accent impossible et peu comédien, Et donc, c'est Ernest Guiraud qui a enlevé tous ces textes parlés et les a transformés en récitatifs musicaux, très réussis, selon moi. Je crois que Carmen doit beaucoup à ces récitatifs chantés, qui en font un tout autre chef-d'œuvre. Le public avait aimé la féerie des pêcheurs de perles, mais il était effarouché par cette musique de tintamarre qui plaisait tant à Nietzsche. Enfin, l'œuvre semblait maudite. La chanteuse du rôle Gali Mariée, qui chante Carmen à merveille, est la maîtresse de Bizet, qui, lui, avait épousé récemment la fille de Halévy, le célèbre compositeur de la Juive. Et alors, évidemment, vous imaginez toutes les cabales qu'il pouvait y avoir au sujet de cet adultère. Car ce Bizet est un personnage énigmatique, virevoltant. Sa vie est douloureuse. Son fils, Jacques, meurt à l'âge de 3 ans. Le destin semble menacer Bizet, qui, lors d'une représentation de Carmen, a une rupture d'anévrisme pendant l'ère des cartes, qui prédisent la mort. Extravagant, il prétend se soigner en prenant un bain d'eau glacée dans la Seine. Ça lui sera fatal. Et avec le fiasco de Carmen, eh bien, finira le pauvre Bizet avec un infarctus en 1875. Par son génie et sa vie extravagante et si difficile, il me fait penser à Mozart, avec lequel il semble partager une grâce musicale divine et une vie humaine bien compliquée. Carmen s'inspire un peu du folklore cubain de la Havane. Écoutons donc la Habanera, la danse de la Havane, qui est probablement le morceau d'opéra le plus connu de tout le monde, tellement la publicité s'en est emparée. Écoutons cette Habanera par Elina Garancha.
Toi.
la célèbre Séguédille du premier acte. Elle aussi inspirée un petit peu du folklore espagnol. Séguédille où la sorcière Carmen ensorcelle le pauvre Don José. Rythme, couleur, orchestration merveilleuse de cette petite valse espagnole. Tout le talent de Bizet consiste à nous transporter musicalement dans cette Espagne qu'il n'a jamais vue, mais qu'il imagine avec retenue, avec distinction, discrétion quant à l'évocation du folklore, qui est souvent plus vrai que vrai. Tant cette discrétion est repensée par un grand artiste, ne se contentant pas de plagier le vrai folklore, souvent lourd et incompatible avec l'opéra romantique. Le rythme, cependant, est conservé, mais la ligne mélodique de cette valse espagnole est bien plus élégante que les chansons des zarzuela traditionnelles, et cela s'imbrique fort bien dans l'écriture d'opéra. Écoutons Teresa Berganza et Placido Domingo qui lui donnent la réplique.
Plaisir sont à deux, donc pour me tenir compagnie, je mènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est à diable, je l'ai mis à la porte hier, mon pauvre cœur réconsolable, mon cœur irréconsolable. J'ai des galas à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine que je m'aimais. Je l'aimerai. Qui veut mon amour? Elle est à prendre. Vous arrivez en un moment. Je n'ai guère le temps d'attendre car avec mon nouvel amant. Prenez ma part de Séville chez moi.
Et toi, je t'avais dit que les paroles.
Je ne te parle pas. Je chante pour moi-même. Je chante pour moi-même. Et je pense, il n'est pas défendu de penser.
Toi, province d'une adiadra.
Au deuxième acte, Don José, envoûté par Carmen, doit écourter son rendez-vous avec celle-ci. Car, en bon soldat, il doit s'empresser de rentrer à la caserne. La belle entre dans une rage folle et veut rompre leur idylle. Le pauvre Don José, prêt à tout pour conserver les faveurs de la belle, perd toute dignité et lui déclare un amour désespéré, pitoyable, dans l'un des plus grands airs de ténor du répertoire, le célébrissime « La fleur que tu m'avais jetée ». Écoutons Jonas Kaufmann dans cette page sublime. Pour l'année 1875. Quelles harmonies audacieuses! Pour moi, un souvenir inaltérable, si lointain, mais si vivace, dans ma mémoire. Car j'avais obtenu mon premier prix de direction d'orchestre en accompagnant, aussi en dehors des autres épreuves, en accompagnant Albert Lance, le grand ténor australien, justement dans cette terre qu'avait choisi le jury. Et air qu'il chantait mieux que quiconque, avec sa bonhomie et son immense talent. N'oublions pas qu'il a été longtemps le partenaire de la Callas. C'est dire. Nous avons écouté donc Johannes Kaufmann, et pour ma part, eh bien, il est de tradition que je vous raconte à chaque émission quelques anecdotes savoureuses ou pas vécues au cours de ma carrière. En voici une concernant cet air de ténor. Le ténor en question était l'excellent Vassilié Moldoveanu, qui était un spécialiste du rôle de Don José dans les années 1990. Et il était excellent. Et j'étais ravi de travailler avec lui. Mais le lendemain de la générale, eh bien, il est atteint d'une péritonite et hospitalisé. Il faut le remplacer en urgence, car la première est le lendemain. Alors, on cherche, on téléphone. Le seul ténor disponible est une star italienne qui répète André Chénier à l'Opéra de Paris. Il arrive une heure avant la représentation, fatigué par le voyage, et il chante cet air, la fleur que tu m'avais jetée, si mal que je suis obligé de le laisser finir a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement de l'orchestre, tant il chantait faux, bas, et si l'orchestre intervenait, c'était la cacophonie. Bronca du public furieux, il faut toute la diplomatie du metteur en scène pour convaincre ce ténor, une star, de venir chanter le troisième acte, car il avait déjà commandé un taxi pour repartir. Finalement, après maintes supplications, il revient en scène. Et là, il chante merveilleusement et le public lui fait un triomphe. C'est cela l'opéra. Ombre et lumière. Passons maintenant au troisième acte, avec l'air célébrissime de Michaela, la soprano de la pièce, car Carmen est une mezzo-soprano. La jeune Michaela aime vraiment Don José et elle essaye de le tirer des pattes de cette maudite sorcière de Carmen qui a réussi à transformer le pauvre Don José en déserteur et en contrebandier. La jeune fille affronte courageusement le danger. Écoutons cet air très connu et souvent bissé lui aussi. Écoutons Mirella Freni. cet air est une réussite exceptionnelle et en partie due au beau récitatif de Ernest Guiroux. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il avait remplacé le texte parlé par une musique qu'il avait inventée dans le style de Bizet et qui véritablement a changé l'œuvre. Et puis, bien sûr, dans Carmen, il y a le célèbre toréador, le baryton, qui a séduit Carmen avec son prestige, son habit de lumière, au détriment du pauvre Don José. Il faisait déjà son apparition au deuxième acte avec le célébrissime air du toréador. Toréador, qui est un mot du vieil espagnol littéraire, transformé actuellement en espagnol moderne en torero. Écoutons le baryton basse Samuel Ramé dans ce tube.
Señor, señor, cara de clay soldat. Il est torero, un beso d'ordre. Pour le plaisir, ils sont les corps. Cirque passe jour de fête, cirque plein d'iotaba. Respectateur, perdons la tête. Respectateur, s'interpelle. Apostrophe, prisée ta page, vous saisissez à la fureur, car c'est la fête des courages, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, allons, toréador en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.
On fait silence, ah, que se passe-t-il?
Une cuisse à la jambe, une cuisse à la jambe, le taureau s'élance en horizon, dit horrible. Il s'élance, il en frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Oh, bravo, bravo, il le la roule. Il vient, et va m'avoir à sa voix, c'est mon rire, par le fileur qui court, le cirque est plein de sang. On se sauve, on va chez l'aiguille, c'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons. Toréador, toréador, et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un
l'amour t'attend.
Alors, cette musique très rythmée, cette musique que tout le monde reprend en chœur, c'est un portrait musical d'un personnage, d'une ambiance. Tout est dit, on s'y croit à ce que raconte le toréador, le taureau qui entre puissamment, on entend le rythme, et puis les cris des aficionados qui sont là pour voir la corrida. Musique brillante, tintamarre. Nietzsche adorait ce genre de prestation. Mais Don José n'en restera pas là. Et il ira attendre Carmen à l'entrée des arènes, où doit se produire le beau toréador. La belle refuse de se soumettre et ridiculise à nouveau Don José, qui finira par la poignarder. On oublie quelquefois de voir en Carmen une femme libre et qui défie le destin au péril de sa vie, préférant la mort à l'obéissance, comme le personnage du Don Juan de Mozart, son pendant masculin. C'est un chef-d'œuvre grandiose et une apologie de la femme sous toutes ses facettes. J'en profite donc pour remercier Nancy, qui met en onde toutes mes émissions avec talent et précision. Et puis, eh bien, comme l'été arrive, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous reprendrons au mois de septembre nos émissions. Et pour l'instant, eh bien, nous nous quittons en écoutant la fin de Carmen par Anne-Sophie von Otter et Marcus Haddock au Festival de Glyndebourne, dirigé par Philippe Jordan. C'est toi, c'est moi.
C'est toi,
c'est moi.
On m'avait averti que tu n'étais pas loin, que tu devrais venir. On m'avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave, je n'ai pas voulu fuir.
Je me menace pas, je pleure, je supplie.
Non, je sais bien que tu me tueras.
Anna Makina.